Mauricie se lève.
Votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
J'ai été saisie hier par cette sortie publique de ce regroupement qui dénonce ce qu'il estime être de la négligence et de la délinquance organisationnelle de la part du CIUSSS Mauricie Centre du Québec. On va bien décortiquer tout ça ensemble. Il va pouvoir nous expliquer justement quel travail ils font. Bonjour, M. Hébert.
Bonjour, Mme Gaudreau. Comment allez-vous?
Bonjour. Bien, ça va très bien. Monsieur Hébert, on va repartir de la base ensemble, si vous nous le permettez. Le regroupement des ressources résidentielles à l'adulte, il y en a combien des ressources résidentielles à l'adulte, Mauricie Centre du Québec?
Présentement, on est aux alentours de 260 ressources qui regroupent différents programmes de santé mentale, déficience intellectuelle et aussi au niveau du sport aux aînés. Il faut dire que notre réseau a fondu depuis les 5 dernières années. On est passé, on a environ 110 ressources en moins. C'est majeur comme...
OK, alors il y en a beaucoup moins. OK, donc il y en a beaucoup moins que par les années antérieures. Dites-moi, là, quand on parle de ressources résidentielles à l'adulte, si on le définit, là, qu'est-ce que ces gens-là font exactement?
Ben, c'est similaire aux familles d'accueil à l'enfance, sauf que nous, c'est à l'adulte. Donc, on reçoit dans notre résidence principale des personnes qui ont des problématiques diverses, santé mentale, déficience physique, aussi du multi-handicap. La clientèle s'apparente beaucoup à ceux maintenant qu'on peut retrouver dans les CHSLD. D'ailleurs, cette clientèle-là, c'est depuis une dizaine d'années qu'elle s'alourdit davantage. Puis nous, on est toujours aux prises avec un manque de ressources financières, ressources humaines, ou aussi ressources techniques. Et ça, ça a un impact majeur sur les services de auprès de la clientèle. Et d'ailleurs, cette lourdeur-là s'était reconnue lorsqu'on a rencontré le PDG du CIUSSS MCQ avant qu'il quitte pour Québec. 20% de la clientèle chez nous qui est hébergée dans notre réseau de familles d'accueil ne devrait pas se retrouver dans notre réseau. C'est majeur. On a environ 1000 usagers dans notre réseau. C'est plus de 200 usagers qu'on reçoit chez nous avec des équipements, des tracts au plafond, de l'équipement spécialisé, des baies adaptées dans une famille d'accueil. Moi, je dois vous dire, je vais vous faire une confidence, je viens du réseau moi-même des familles d'accueil, étant jeune. Oui. Heureusement, je n'ai pas été victime d'inceste ou rien que tout ça, ou de violence physique, mais la violence psychologique est tout aussi dommageable. Et j'ai eu la chance de rencontrer, sur mon parcours, d'avoir cette famille-là. Et moi, je peux vous dire que la qualité du milieu qu'on a chez nous, là, au niveau de notre réseau, là, c'est impeccable. C'est des ressources que je vois, là, la famille que moi, j'ai eu la chance de me donner la deuxième chance aujourd'hui. Okay. Et ça, c'est important parce que la clientèle qu'on reçoit, on veut pas dire que demain matin, on veut qu'elle s'en aille. Les gens, là, puis c'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question d'amour. Les gens sont attachés à ces gens-là. C'est des gens qui sont attachés. Ils ont apporté beaucoup, moi, chez moi, au niveau de mes enfants, même au niveau de notre famille, de notre propre famille. Mm-hmm. Au niveau de l'intégration sociale, c'est une richesse énorme. Sur le plan social, c'est pas juste le plan pécunier, c'est sur le plan social. C'est énorme comme gain qu'on a à faire comme population.
Mais donc, vous nous dites, M. Hébert, que, de ce que je comprends, c'est qu'il y aurait un 20% de la clientèle là, qui ne serait pas au bon endroit, qui est quoi trop lourde? Ça s'est alourdi des cas qui devraient se retrouver où à ce moment-là?
Bien, ça, dans les ressources intermédiaires où ils sont plus adaptés. Mais là, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les 20% qu'on a, on devrait les déplacer, les déménager.
Non, je comprends.
Mais les gens qu'on a, ils sont capables de donner le service, mais sauf qu'on n'a pas les ressources que les ressources intermédiaires ont. Puis comme je vous dis, nous, on a présenté hier un PowerPoint à nos membres, puis aussi aux médias, puis les équipements, là, c'est vraiment des équipements qui s'apparentent au CHSLD. Entre autres, pas juste sur le plan santé, mais sur le plan aussi au niveau de la santé mentale, le drame qui s'est passé à Drummondville, bien ça, on a eu plusieurs appels de nos membres du programme santé mentale, parce qu'ils ont chez eux, ils ont ce genre de bombe à retardement-là. Et le manque de support qu'ils ont face à ce type de clientèle-là, ben nous, ils nous appellent pour dire, ben là, moi, ça, je suis en panique parce que j'ai ce genre d'individu-là chez nous, je fais quoi? Puis on a été interpellés à plusieurs reprises. On a déposé plusieurs avis d'écart au niveau du CIUSSS MCQ concernant certains de ces dossiers-là. Et non seulement le CIUSSS, ça fait plus de 20 ans qu'on dénonce la négligence et la délinquance organisationnelle et supportée par la loi de l'Omerta. Et ça, c'est pas reconnu par notre gouvernement. Tous les gouvernements antérieurs. Il va falloir qu'un jour, notre gouvernement reconnaissent qu'il y a de la négligence, de l'incohérence organisationnelle et supportée par le vent d'Amerta. Et à partir de là, nous, ce qu'on souhaite, c'est de s'asseoir en collaboration avec le politique, pas avec nos gestionnaires ici, pas avec les fonctionnaires. On veut avoir la rencontre avec le politique pour discuter de la négligence et de la délinquance organisationnelle avant qu'on aille s'asseoir à la table des négociations pour parler de l'aspect pécunier.
OK, mais M. Hébert, jusqu'à maintenant, je sais que vous avez interpellé plusieurs députés, ministres, donc il y a eu plusieurs démarches. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous vous êtes assis avec quelqu'un de cette gang-là?
Oui, on a eu le privilège d'avoir une rencontre avec notre député ici au niveau de Drummondville, M. Schneeberger. Il nous a eu une rencontre avec la ministre des Proches Aidants et des Aînés, Marguerite Blais.
OK, Mme Blais. Oui.
Oui. Et une rencontre, c'est toujours des rencontres qui sont très, très intéressantes, qui sont très, très à l'écoute. Nous, dans tous les discours qu'on a, toutes les rencontres qu'on a, nous, on attend les actions.
Ben voilà, c'est ce que je partais pour dire, M. Hébert, parce que savez-vous quoi, puis je ne vais pas vous couper, mais on l'entend souvent, sûrement vous l'avez surentendu, là. Moi, je veux bien qu'on écoute, qu'on soit là, on est allé à votre écoute. Là, on n'est plus là, là. Ça prend des gestes concrets. Mme Blais, là, elle peut vous aider de quelle façon concrètement?
Nous, au niveau régional, nous, ce qu'on souhaite, d'ailleurs, on a eu un mandat très clair de nos membres hier, parce qu'on était en Assemblée générale hier matin pour prendre justement deux décisions. La première, c'est, nous, on veut se retirer du plan régional. On veut se retirer de toutes les évaluations cliniques annuelles jusqu'à temps qu'on ait une confirmation de Mme Blais ou aussi du ministre de la Santé, parce que notre dossier concerne aussi la santé. Et on va avoir une table avec au niveau régional avec tous nos politiciens, ou quelques-uns d'eux, entre autres, et aussi Mme Blais pour discuter de la maltraitance chez nous. Régler le problème avec notre CIUS, parce qu'il y a un problème. D'ailleurs, ça a été identifié par la table des partenaires avec le sous-ministre. Elle a reconnu que c'est un problème régional de le régler. C'est pas nous autres à régler ça, c'est à eux.
Mais M. Hébert, juste pour que les gens vous suivent comme il faut, quand vous parlez de maltraitance, là, donnez-nous un exemple.
Ben écoutez, je vais vous donner un exemple bien concret. Lors d'une rencontre multiclientèle, tous les professionnels sont là, représentants du curateur est là. Et là, il y a une personne qui souffre de copromanie. Elle mange chez elle. Et là, la question qui est posée lors de cette rencontre-là, parce qu'on enlève un vêtement qui est restrictif, et là, la personne a accès à son corps, puis là, pendant plusieurs mois, mange des selles. La question qui est posée en pleine rencontre, est-ce qu'il y a un danger pour la santé de la personne si elle mange des selles? Totalement inacceptable. La rencontre, il n'y a personne qui a bronché, on a continué la rencontre comme si rien n'était, alors que il y a quelques temps, on parlait des pilotes d'incontinence avec les mixons, puis là, il fallait que la ligne bleue monte, ça n'a aucun bon sens.
Des problèmes qui on vous répond quoi, M. Hébert? On vous répond quoi quand. Donc, pour des. Parce que ça, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Nous, on a la chance d'avoir des excellents intervenants sur le plancher. Des gens qui nous épaulent. Et ces gens-là, on a intercepté une communication à un moment donné. Et ces gens-là, même au niveau verbal, parce qu'ils sont limités aux autres ici, ils nous disent je ne peux pas te demander de faire telle intervention. Je suis limité par l'administratif, par nos gestionnaires. C'est majeur.
Ben c'est majeur, c'est ça. Nos
cliniciens nous disent là, même que moi, là, je voudrais être en pouvoir de dire que telle intervention, c'est correct, tu vas l'appliquer comme ça. Et malheureusement, elle se ferait brouiller par les gestionnaires pour dire non, tu n'appliqueras pas ce genre d'intervention-là.
Monsieur Hébert, on va se laisser là-dessus. Tout à l'heure, on va parler avec Michel Manceau, là, Madame Manceau, qui justement fait une sortie parce que elle a quelqu'un avec elle, un jeune homme, et elle ne savait pas que c'était un sociopathe. On lui a fait croire que c'était quelqu'un de doux, quelqu'un qui n'avait pas de problème de santé mentale. Et là, le cas est très, très lourd. Alors, c'est pas sans rappeler ce que vous disiez tout à l'heure, le meurtre de Suzanne Desjardins, là, cette mère de Drummondville, qui souhaitait que son fils subisse une évaluation psychiatrique, puis il est arrivé ce qui est arrivé. Alors,
J'ai un autre cas à vous citer.
Allez-y rapidement, M. Hébert. Oui.
On a reçu à un moment donné un pyromane. Ça n'a jamais été identifié à la ressource. Imaginez s'il avait passé au feu. L'établissement aurait dit non, on n'a jamais parlé de ça.
Attendez, là, il y a un pyromane qui s'est retrouvé dans une ressource.
On a un pyromane qui s'est retrouvé dans. Ça n'a jamais été identifié. Et la ressource partant en voyage de noces m'a appelé. Moi, j'étais sous stress pendant une semaine parce que je n'ai pas dit. Mais au retour, je lui ai dit, hey, avise ton assureur, puis avise l'établissement qui vient chercher l'usager, parce que si tu passes au feu, là, tu vas peut-être laisser à toi-même. Là.
OK, M. Hébert.
On a des dossiers, madame, vous n'avez pas idée. Puis c'est pour ça qu'on nous, on souhaite avoir le politique pour les centres. Moi, je ne veux pas aller masser avec les gestionnaires et les fonctionnaires. On l'a fait le tour. C'est une porte tournante. Il faut s'asseoir avec les politiciens, discuter de la maltraitance, de la délinquance organisationnelle. Ultimement, ce que je ferais, là, c'est vraiment avoir le pendant d'une loi sur la protection de la jeunesse. Ce serait une loi sur la protection des personnes vulnérables, avec des pouvoirs non seulement de recommandation, mais des pouvoirs de sanction. Madame Blais l'a mentionné. Est-ce qu'on serait prêt à sanctionner les gestionnaires et les fonctionnaires sur le plan légal, juridique? Certainement.
Okay. Monsieur Hébert, je dois vous laisser. Yves-François Blanchet est en ligne. Merci d'avoir été là, puis c'est sûr qu'on risque de se reparler. Lâchez pas.
Je vous remercie beaucoup, Mme Godreau. Merci, au revoir.
Merci, au revoir, à bientôt. Quel dossier quand même.